Chapitre 5. Invoquer les émotions. Nous voilà donc au pied de la montagne. Le pathos en rhétorique ne se limite pas au fait de se montrer affecté ou d'assigner des affects. Il consiste aussi, et même surtout, à soulever les passions à la seule force de notre énonciation. Faire vibrer notre auditoire en partant de rien, sinon notre verve. Tels les enchanteurs des légendes qui parvenaient à matérialiser des créatures féeriques avec leurs formules magiques, il va nous falloir apprendre à changer les mots en émotions. Après avoir envisagé leur contagion et leur suggestion, il est temps de nous pencher sur leur invocation. Contre toute attente, cela n'est pas si compliqué. Il suffit de partir des 6 critères situés aux sources des affects, la proximité, l'intensité, l'identité, l'agentivité, la similarité, la matérialité. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'utiliser notre parole pour les mettre en lumière. Non plus seulement en sélectionnant les informations que nous dévoilons, mais en nous employant par notre discours à révéler, accentuer, voire façonner le caractère émotionnant d'un événement. Pour cela, quelques procédés suffisent : la matérialisation, la description, l'amplification et la métaphorisation. 1. La matérialisation. Une fois n'est pas coutume, commençons par envisager l'exception, c'est-à-dire les procédés émotionnants qui ne relèvent pas du discours lui-même, mais de ses accessoires. Rappelons-le, une situation est davantage susceptible de nous toucher dès lors qu'elle nous paraît proche, familière ou matérialisée. Or, ce que nous avons le plus de facilité à nous représenter, c'est encore ce qui est réellement présent. Lorsque cela est possible, la manière la plus simple de soulever des émotions sera de donner à voir ou à entendre concrètement la réalité émotionnante. Nous profiterons donc de notre intervention pour exhiber des objets, images, vidéos ou bandes sonores. Les auditeurs n'auront pas même besoin de faire appel à leur imagination. Confrontés directement à la réalité, il leur suffira de la constater. Le procédé peut sembler grossier, il n'en est pas moins terriblement efficace. Exemple numéro 1. France, 26 novembre 1974. L'Assemblée nationale commence l'examen d'un texte historique, la légalisation de l'interruption volontaire de grossesse, l'avortement. La ministre de la Santé, Simone Veil, défend son texte contre une opposition venue de sa propre majorité. Pendant 3 jours, les débats se déroulent dans une tension extrême. Et, jusqu'au bout, l'issue demeure incertaine. Chaque nouvelle intervention est susceptible de faire basculer le vote d'un côté ou de l'autre. C'est dans ce contexte que le député René Feit, membre de la majorité, par ailleurs gynécologue, prend la parole. Il monte à la tribune avec sous le bras un magnétophone. En plein milieu de son intervention, il s'interrompt et active son appareil. Les parlementaires ont alors la surprise d'entendre, faiblement mais distinctement, des battements de cœur, ceux d'un fœtus de 8 semaines. La loi prévoit, elle, que l'avortement soit possible dans les 10 premières semaines de grossesse. Elle sera finalement votée. Mais plusieurs députés révéleront qu'avec cet enregistrement, en seulement quelques secondes de son, René Feit était parvenu à les ébranler. Exemple numéro 2. Conseil de sécurité des Nations Unies, 5 février 2003. Le secrétaire d'État américain, Colin Powell, prend la parole. Son objectif ? Convaincre que Saddam Hussein possède des armes de destruction massive et doit donc être mis hors d'état de nuire. À l'appui de sa présentation, il produit de nombreuses photos satellites, difficilement lisibles, et des enregistrements audio, peu conclusifs. Il explique notamment que l'Irak pourrait posséder des milliers de litres d'anthrax, un puissant agent bactériologique. Dans un geste dramatique, il brandit alors une petite fiole contenant une poudre blanche. À l'automne 2001, le Sénat américain a reçu une enveloppe contenant environ cette quantité d'anthrax, à peine une petite cuillère. Cela a envoyé plusieurs centaines de personnes aux urgences médicales et a tué deux employés de la poste. Saddam Hussein, lui, pourrait avoir produit suffisamment d'anthrax pour remplir des dizaines de milliers de petites cuillères. Depuis, il a été prouvé qu'une grande partie des preuves présentées par l'administration américaine ce jour-là étaient mensongères. Ce que contenait réellement la fiole demeure incertain. Du reste, dans son discours, Colin Powell ne prétendait pas explicitement qu'il s'agissait de poudre d'anthrax. Elle pouvait bien n'avoir qu'un rôle symbolique. Cette image du secrétaire d'État américain, exhibant un inquiétant produit en plein cœur de la diplomatie mondiale, n'en fit pas moins le tour de toutes les télévisions, contribua largement à susciter la terreur et réveilla en retour les instincts guerriers. Il existe donc bien une rhétorique des sons, des images et des objets. Que faire toutefois quand nous ne disposons pas d'une preuve matérielle à exhiber devant nos auditeurs ? C'est ici précisément que commence l'art du discours. Ce que nous ne pouvons pas montrer, nous allons le raconter. 2. La description. Au premier rang des procédés permettant de produire de l'émotion se trouve l'art de la description. Il consiste tout simplement à donner à voir la réalité par le discours. Mot après mot, nous allons la sculpter, en faire ressortir les traits saillants, les aspérités, jusqu'à ce qu'elles s'imposent à l'esprit des auditeurs. Lorsqu'elles sont façonnées avec soin, les descriptions deviennent des figures de présence. Elles ont le pouvoir de faire halluciner le réel. Elles le mettent devant les yeux. Les événements dont nous parlons gagnent en matérialité et en proximité. Ils paraissent à la fois plus précis et plus familiers, et deviennent donc davantage émotionnants. À condition, bien sûr, d'être capable de décrire efficacement. Il existe deux procédés stylistiques qui relèvent de la description, l'hypotypose et la diatypose. Bien que la frontière entre l'une et l'autre soit assez floue, elle n'en renvoie pas moins à deux manières très différentes de peindre la réalité. L'hypotypose, c'est l'art de la description riche et détaillée. Tel un tableau naturaliste, nous allons représenter notre scène de la manière la plus minutieuse possible. Peu à peu, de phrase en phrase, nous la dessinons avec la plus grande précision. À l'issue de notre séquence, tous nos auditeurs devraient donc avoir exactement la même image à l'esprit, celle que nous voulions leur instiller. La diatypose, au contraire, c'est l'art de la description vive et ramassée. À la manière d'un tableau impressionniste, voire d'un croquis, nous allons nous contenter d'ébaucher la situation. À gros traits, nous brossons les contours en insistant seulement sur quelques aspects saillants. Si nous les avons bien choisis, ces détails évocateurs et signifiants devraient suffire pour que nos auditeurs reconstruisent d'eux-mêmes le reste de la scène. Ils auront alors tous en tête des représentations différentes tirées de leur propre imaginaire, mais qui convergeront dans une même direction, celle que nous voulions leur inspirer. Étude de cas numéro 1. Durant une soirée chez des amis, je raconte que je viens d'apprendre par un reportage que des enfants soldats étaient encore aujourd'hui enrôlés et endoctrinés sur plusieurs théâtres de conflit. L'un des convives réagit avec un brin de circonspection. « Je vois pas pourquoi tu en fais tout un plat. La guerre, c'est sale, des gens meurent, d'autres tuent, c'est comme ça. » Que ce soit un enfant ou un adulte qui appuie sur la gâchette, au fond, qu'est-ce que ça change ? Pour tenter de lui faire saisir l'horreur de la situation, j'opte pour l'image la plus marquante possible. Il faut bien comprendre ce dont on parle là. Ce sont des gamins. En journée, ils terrorisent des populations civiles à coups de machettes ou de fusils d'assaut, et la nuit, ils s'endorment en serrant leurs peluches. Guerre ou pas, c'est insupportable. Étude de cas numéro 2. En tant qu'avocat général, j'assure l'accusation d'un homme soupçonné d'avoir tué un agent de sécurité lors d'un cambriolage ayant mal tourné. En face, l'avocat de la défense est talentueux. Malgré un dossier accablant, il serait bel et bien capable de pousser le jury à la clémence. Dans ma plaidoirie, je m'attache donc à faire ressortir toute l'atrocité du crime. Mesdames, messieurs les jurés, je vais vous parler des faits, seulement des faits. Nous sommes un mardi soir. L'accusé entre dans la bijouterie, dégaine son pistolet, commence à tirer. Il a le regard vitreux et les gestes désordonnés. Jacques assure la sécurité de la boutique depuis des années. Il a déjà vécu un braquage. Il sait qu'il faut obéir. Mais cet homme est instable. À n'importe quel moment, il pourrait basculer, s'en prendre à un vendeur ou un client. Alors, le plus discrètement possible, millimètre par millimètre, Jacques rapproche sa main de l'alarme silencieuse. Mais pas assez discrètement. Un coup de feu. La balle lui perfore l'abdomen et lui déchire les intestins. Jacques s'effondre sur le sol. Il se tord de douleur. Le sang poisse ses vêtements. Il ne pense plus qu'à survivre, rester conscient, retrouver ses deux enfants, qu'ils ne grandissent pas sans leur père. Mais non. Déjà, le braqueur revient vers lui, pointe son arme et tire à nouveau. Deux balles cruelles en pleine poitrine. Jacques a les poumons perforés. Il ouvre la bouche, mais ne parvient plus à respirer. Il est en train de se noyer dans son propre sang. Trois minutes d'une insoutenable agonie, puis plus rien. Sa fille et son fils sont orphelins. Décryptage. Comme nous le voyons dans l'étude de cas numéro 2, l'hypotypose requiert du temps et de la solennité pour pouvoir être déployée convenablement. Elle est donc surtout adaptée à des contextes formels, solennels ou institutionnels dans lesquels il est possible de parler sans être interrompu. Rien ne nous interdit, bien sûr, lors d'un déjeuner de travail ou d'un dîner de famille, de ponctuer nos anecdotes de longues descriptions, à condition de posséder un certain aplomb, en plus d'une affinité singulière avec l'art du récit. Au quotidien, comme nous le montre l'étude de cas numéro 1, c'est la diatypose qui se révélera souvent la mieux adaptée. Elle permet de susciter des visualisations frappantes et donc des émotions marquantes sans nécessiter pour autant de monopoliser la parole. La contrepartie, c'est que, confronté à l'infinie complexité d'une situation donnée, nous devons être capables de discerner les quelques détails suffisamment remarquables pour que les auditeurs parviennent mentalement à visualiser toute la scène. L'hypotypose demande de la maîtrise pour rester allègre et ne pas tomber dans l'ennui. La diatypose exige du talent pour, en quelques phrases, cristalliser le réel au point qu'il en prenne vie. Notons que l'art de la description peut également s'appliquer non plus aux événements que nous évoquons, mais aux individus qui y sont impliqués. On parle alors plus spécifiquement d'une étopé. En stylistique, il s'agit de la figure du portrait. Elle consiste à dépeindre un personnage en retraçant sa biographie, exhibant ses mœurs ou exposant ses valeurs. L'objectif, c'est bien entendu de le donner à voir sous un angle bien particulier qui va servir notre propos. Nous pourrons par exemple souligner son caractère particulièrement vulnérable ou menaçant, ou bien mettre en lumière les éléments qui le rapprochent ou l'éloignent de nos auditeurs. Autant de critères dont nous avons vu qu'ils déterminent en partie le potentiel émotionnel d'une situation. Suite de l'étude de cas numéro 2. Avocat pénaliste, j'assure la défense de l'homme accusé d'avoir tué un agent de sécurité lors d'un braquage. Arrêté le jour même, les vêtements maculés de poudre et les semelles tachées de sang, sa culpabilité est accablante. Tout ce que je peux faire, c'est tenter d'adoucir sa condamnation. Mesdames, messieurs les jurés, n'y allons pas par quatre chemins. Oui, ce crime est atroce, abominable, impardonnable. Mais il ne vient pas de nulle part. Ne sommes-nous pas tous, au fond, le produit de notre histoire? Eh bien, cela vaut aussi pour mon client. Laissez-moi vous parler de lui, juste un instant. À 6 mois, il est abandonné par sa mère. À 8 ans, il est admis aux urgences, les os du bras droit en miettes. Son père adoptif l'avait battu avec un rouleau à pâtisserie, encore et encore, jusqu'à ce que ses cris cessent et qu'il perde connaissance. Retour à l'orphelinat. À 11 ans, il est violé par un surveillant. « Aujourd'hui encore, m'a-t-il confié, en larmes, il lui arrive de se réveiller avec, dans le nez, l'odeur saumâtre de son parfum bon marché. Toute sa vie, il n'a connu que la violence, la solitude, la pauvreté. Alors, bien sûr, cela n'excuse rien. Mais demandez-vous tout de même, si vous aviez vécu ce qu'il a vécu, que seriez-vous devenu ? Décryptage. L'enfance malheureuse, ce cliché usé par des générations entières d'avocats au point que la phrase « Ne sommes-nous pas le produit de notre histoire ?» soit devenue un poncif des prétoires. À juste titre, lorsqu'elle est couronnée de succès, cette stratégie revient à renverser l'orientation émotionnelle du procès. Alors que toute la compassion du jury était réservée à la victime, l'étopée la mobilise également à l'endroit de l'accusé. Bien évidemment, ce procédé n'est nullement réservé aux ambiances feutrées des tribunaux. Dès lors que nous sommes en position de brosser le tableau d'une situation, nous pouvons aussi prendre le temps d'ébaucher le portrait de ses participants. Montrés dans leur normalité, leur médiocrité ou leur fragilité, ils attireront la compassion, le mépris ou la pitié. Représentés dans leur exceptionnalité, leur fermeté ou leur méchanceté, ils susciteront au contraire l'admiration, la peur ou la détestation. À nous de déterminer quelles sont les émotions qui nous aideront à emporter la conviction. Qu'elles prennent la forme d'une hypotypose, d'une diatypose ou d'une étopée, la description permet ainsi de donner à voir la réalité dans ce qu'elle a de plus émouvant. En cela, il s'agit bien d'un des principaux procédés mobilisés par la rhétorique des affects. Pour autant, il est loin d'être le seul.